Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau. On ne croira jamais, tant elle est effroyable, qu'elle renferme rien de beau. Aujourd'hui, nous allons parler de peau d'âne dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi si tu peux.
Docteur, je m'appelle Clarisse Darley. Est-ce que je peux vous parler ?
Tu es un sorcier, Harry.
Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Vous avez toujours été le gardien.
C'est qui le con qui a écrit ça ? William Shakespeare.
Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler de Peau d'âne, un conte de Charles Perrault paru en 1694 qui a été adapté en film par Jacques Demy en 1970. Pour parler de ce titre, je suis avec Pascal.
Salut.
Et avec Manon.
Hello.
Alors, comment est-ce que vous avez découvert Peau d'âne ? Est-ce que c'est d'abord par le conte ou d'abord par le film ? Et je vais commencer par toi, Pascal.
Moi, je pense que j'ai d'abord connu le film. Ma mère, qui est une grande fan de Jacques Demy, m'a montré le film quand j'étais petite. Et parce que j'ai pas l'impression que c'est un conte qui soit des plus connus, en fait. C'est pas un conte de Perrault qui sont plus connus et il a pas eu d'autres adaptations, par exemple en dessin animé. Donc moi, j'ai d'abord vu le film.
Ok. Et toi, Manon ?
Alors moi, je connaissais le conte parce que c'est super connu, mais par contre, je n'avais pas lu le conte et je n'avais pas vu le film non plus. Donc j'ai fait les deux à l'occasion du podcast.
La totale découverte. Alors moi, je pense que j'ai d'abord connu le conte en premier. Je ne sais pas si j'ai connu la version originale du conte, à mon avis, parce que le conte était en vers. Je l'ai d'abord connu en prose, dans un gros livre de conte, vous voyez le style.
Oui, les recueils.
Voilà, exactement. Mais j'ai découvert le film aussi quand j'étais petite parce que ma mère me l'a montré parce qu'elle est aussi fan de Jacques Demy. Mais je me souviens que quand j'ai vu le film pour la première fois quand j'étais petite, j'avais été un peu rebutée par le côté un peu vieux. Enfin, j'avais eu du mal à rentrer dedans. Amour, ça m'avait un peu... Enfin, j'avais trouvé ça bizarre, mais après j'avais bien aimé. Et là, du coup, je l'ai revu pour le podcast aussi. Parlons du livre. Donc j'ai dit que Peau d'âne était un conte de Perrault, mais en réalité c'est un conte populaire avant tout. Comme beaucoup de contes, c'était vraiment une histoire qu'on se racontait en France dans la tradition orale. La version la plus célèbre du conte, c'est effectivement celle de Charles Perrault, qui est parue en 1694 et en fait qui a été rattachée ensuite au conte de Ma Mère Loi. Charles Perrault, lui, c'était un formalisateur du genre du conte. C'est lui qui a recueilli, en fait, tous les contes qu'on se racontait dans les villages de fin fond de France et qui les a, en fait, formalisés et qui est, finalement, lui, un des précurseurs du conte merveilleux ou conte de fées.
Mais d'ailleurs, Victor, comme tu le dis, il y a énormément de... Enfin, à la base, c'était un conte oral qui était raconté un peu partout, mais même à l'étranger. Parce que, en fait, il y a même les frères Grimm qui ont publié une version du conte en allemand. Je vais pas le dire en titre original parce que je ne parle pas allemand, mais qui s'appelle Peau de mille bêtes ou toute fourrure. Ouais. Et apparemment, il y a même des versions africaines. Il y a une version de l'écrivain napolitain Basile au XVIIe aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est très, qui est culturel, on va dire.
Ouais, qui est vraiment appartient à la culture européenne dans son ensemble finalement. Et même, enfin, les contes comme ça, on a finalement tous un peu les mêmes histoires. Je pense que des histoires comme Cendrillon, tu en retrouves aussi en Asie, par exemple. Mais voilà, les contes, ça, c'est quelque chose qui partage beaucoup. On a parlé de contes de fées, donc ce sont des contes. C'est un sous-genre du conte, en fait, dans lequel il y a un événement merveilleux de fantasy, de fantastique, etc. La différence aussi que Charles Perrault a apporté à son conte, c'est qu'il apporte une morale. Il y a vraiment une fonction moralisatrice du conte, un peu comme La Fontaine, c'est pour l'enseignement des jeunes enfants, comme il le disait. Et du coup, en fait, à la base, ces histoires, elles racontaient juste des choses merveilleuses, etc. Elles n'avaient pas forcément de but, et lui, il en a fait quelque chose moralisateur. Et Peau d'âne, d'ailleurs, serait, selon Bottigamer, qui a fait une classification des contes de fées, ce serait le premier conte français qui existe, enfin qui est écrit.
Écrit.
Voilà. Pascal, peux-tu nous faire le résumé de Peau d'âne ?
Avec plaisir. Donc c'est l'histoire d'un roi qui est riche grâce à son âne qui pond de l'or. Et un jour, il promet à la reine qui est mourante de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Aucune femme n'a grâce à ses yeux, sauf sa fille, plus resplendissante que sa mère. Il en tombe amoureux et désire l'épouser. Elle résiste, grâce aux idées et aux manigances de sa marraine, la fée des lilas. en demandant 3 robes extraordinaires. Les ayant obtenues, elle finit par exiger la peau de l'âne du roi et s'enfuit, revêtue de celle-ci. Un prince la découvre cachée dans une cabane dans la forêt et en tombe amoureux.
Voilà. Pas mal, très bon résumé. Donc oui, Podan, c'est quand même une histoire un peu glauque, on va le dire tout de suite.
totalement glauque.
Je veux dire, l'histoire, ça a quand même le gros nœud de l'histoire, en fait, c'est l'inceste.
Oui.
Ce qui n'est quand même si dans les contes de fées, il y a parfois des histoires un peu limites, là, c'est vraiment quand même assez hors du commun, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de contes qui abordent ce sujet très tabou. Ouais.
C'est même pas caché, là, c'est directement, c'est ouvertement exprimé.
Oui, et puis ce qui est drôle dans le conte, c'est que même le narrateur, il se moque du roi, parce qu'il dit, en fait, à la mort de la reine, ouais, le roi, il pleurait tellement fort qu'on avait l'impression qu'en fait, il essayait de faire son deuil très vite et très fort pour s'en débarrasser au plus vite, quoi. Donc il y a un peu un jugement de valeur dès le départ sur le roi, en mode, qui avait quand même très envie de se remarier, quoi.
Oui.
Oui. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est le fait que non seulement cette idée germe, mais elle paraisse un peu naturelle, dans le sens où le roi, il va avoir un conseiller juste pour lui demander si vraiment est-ce que c'est ok de se marier avec sa fille, mais c'est bah
après
quand même
il est assez influençable
parce
que c'est quand même son conseiller qui lui met l'idée dans la tête en disant ah finalement
dans le conte je crois
oui,
pas hein.
Dans le conte si
dans le conte aussi
oui
il passe assez vite ce tabou finalement.
Et, oui, voilà.
Et donc du coup, il va très naturellement demander sa fille en mariage. D'ailleurs, on notera que la princesse n'a pas de nom. Elle s'appelle juste la princesse ou l'infante dans le conte. C'est ce mot un peu désuet qui fait mention à la princesse, enfin à la fille du roi, quoi. Elle est pas très emballée par l'idée.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Pas du tout, même.
Voilà, et du coup, comme à la manière de Cendrillon, elle va demander conseil à sa marraine, la bonne fée. Enfin. Qui lui dit non en fait vous aimez votre père mais ce n'est pas le même amour qu'on doit à son père qu'à un époux et du coup c'est là qu'elle va lui dire on va faire un plan pour que vous n'ayez pas à épouser votre père et là elle va lui dire demandez-lui l'impossible, demandez-lui une robe couleur du temps et là du coup il y a tous ces choses merveilleuses qui vont arriver, elle va avoir sa robe couleur du temps, ensuite elle va avoir sa couleur
de lune robe couleur de soleil. En fait, à chaque fois, le roi réussit l'impossible en fabriquant ses robes en un temps record. Et donc, la princesse est désespérée puisqu'elle se dit « Mais je vais devoir l'épouser. Voilà, je ne vais pas y échapper. » Et donc, elle finit par lui demander ce qui semble vraiment impossible, la peau de l'âne banquier. Donc, l'âne qui pond des pièces d'or.
Et qui faisait la richesse du royaume.
Qui faisait la richesse du royaume. Donc là, ce serait vraiment... presque causé à la faillite de ce royaume. Et en fait, le roi veut tellement l'épouser qu'il tue son âne et il lui donne la peau.
Ouais, donc là, la fée, elle comprend que c'est vraiment compliqué pour Podan. Et donc, c'est là qu'elle lui dit enveloppez-vous de la peau d'âne et enfuyez-vous pour échapper à cet amour. Parce que la princesse, elle sait plus ce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'elle est vraiment mise à bout. Et la fée, elle continue à la pousser, à lui dire non, ce n'est pas bien. Et donc, c'est comme ça que Podan se retrouve finalement en souillon. À partir dans un village enveloppé de sa peau, de son cadavre d'âne sur la peau, sur le corps, quoi. Et bien sûr, elle va aller dans un village et elle va se retrouver dans une petite cabane, etc. Elle a bien sûr ses robes avec elle. La fée lui a donné sa baguette magique, et elle a emporté son coffre et ses belles robes.
Donc voilà, elle peut quand même, si elle a envie, dans sa cabane, mettre ses super belles robes pour kiffer toute seule, quoi.
Bah, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait.
Genre le dimanche, je crois, elle est en mode ah bah tiens, c'est dimanche, allez, je vais mettre ma robe.
C'est exactement
c'est ça.
Pour mes cochons.
C'est son jour de repos, donc.
Pour faire le ménage.
Elle se pimpe. Et du coup, le prince qui passe par là, bien sûr.
Un dimanche, évidemment.
Un dimanche, forcément, parce que c'est le jour de la chasse. Il passe par là, il voit Podan par le trou de la serrure. Et là, il la trouve sublime parce qu'elle porte sa robe couleur du soleil. Et il essaie d'enfoncer la porte 3 fois. Et 3 fois, il ne réussit pas à enfoncer la porte.
Ce qui est quand même très étrange et dérangeant.
Ouais, pareil, tu te dis qu'il n'y aurait pas un message caché là-dessous. C'est quand même un peu spécial. En mode, elle est tellement pure que même la porte de sa maison ne s'ouvre pas. Il y a peut-être un message comme ça, non? On les compte, il y a souvent des messages un peu subliminaux.
C'est des messages cachés pour les enfants de 7 ans.
Voilà, et du coup, le prince, bien sûr, il est très très amoureux, il en est malade d'amour, et rentre chez lui, il ne pense qu'à elle. Il demande un gâteau, fait par Podane.
Oui, parce qu'il enquête un peu, et on lui dit, mais non, mais il n'y a qu'une souillon dans cette cabane, elle s'appelle Podane, et donc lui, il comprend pas, il est un peu désespéré. Bon, il a pas l'air très fut-fut quand même. Enfin,
non, mais le lien avec le gâteau n'est pas très clair.
Non, parce qu'il dit, il sait qu'elle est là-bas, mais il y retourne pas. Il demande qu'elle lui fasse un gâteau. Bon, pourquoi
alors,
pas hein.
Moi, je pense que c'est une sorte de... Enfin, pas de caprice, mais un peu une sorte de stratagème. Parce qu'il voit Podane dans cette cabane à laquelle il ne peut pas accéder. Et tout le monde lui dit que c'est un souillon. Donc, elle est un peu décrédibilisée aux yeux de tous, sachant que lui, c'est le prince. S'il demandait à la mariée, ce serait étrange et ce serait un caprice. Mais là, vu qu'il est transi, malade et fiévreux au lit, il profite de l'inquiétude de ses parents pour pouvoir la recrédibiliser, enfin la relégitimer aux yeux de tous à la cour.
Mais juste parce qu'elle aurait fait un cadeau, un gâteau.
Par le fait de la faire venir. Ouais. Oui, par contre, le gâteau, c'est un peu... c'est symbolique, on va dire. Ça leur permet de je sais pas, faire un lien... entre les deux personnages.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu vois que Podane, elle est pas dupe, parce que ils disent dans le conte que en gros, même si elle ouvre pas la porte, en fait, elle avait très bien remarqué que le prince l'observe par le trou de la serrure. Du coup, quand elle fait son gâteau, elle fait exprès de mettre sa bague dedans. Le conte la montre quand même en mode proactif, quoi. Elle est un peu souillon, mais dans le conte, elle essaie quand même de saisir sa chance de mettre sa bague dans le gâteau,
Oui, il me semble qu'il y a la phrase « Si un prince charmant ne vient pas m'enlever, je fais ici serment que j'irai le trouver moi-même. »
Ouais.
Ouais.
Donc,
Ouais, ouais. Et puis même le narrateur, il dit « On ne sait pas si elle l'a mis...
par inadvertance.
Ouais, par inadvertance ou à dessein. Ouais, ouais, mais on pense quand même que... voilà, il laisse quand même un peu le doute sur...
En même temps, si elle l'avait pas fait, le prince aurait mangé le gâteau et puis voilà, quoi. Enfin... L'histoire n'aurait pas forcément avancé.
Non, non. Comme dans Cendrillon, le prince, en trouvant la bague, décide que ce serait la fille qui réussirait à enfiler la bague.
Il y a un vrai parallèle avec l'épouser.
Ouais, en fait, c'est vraiment en fait, la même histoire, parce que dans Cendrillon, c'est un soulier de verre très petit, et donc du coup, il n'y aura que le plus petit pied du royaume qui pourra réussir à le mettre. Et là, la bague, c'est pareil. C'est, en fait, la bague, elle est si petite et si fine et si délicate. Il faudrait vraiment que quelqu'un ait des doigts tout petits pour pouvoir la mettre.
Mais il y en a plusieurs, de toute façon, des parallèles avec d'autres contes, en fait. Enfin, ouais. C'est vrai qu'on retrouve un peu les éléments, la marraine, la fée... les animaux un peu dans la forêt enchantée, etc. Le bal aussi où il y a des animaux autour du prince et du roi et de la reine. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments comme ça qui reviennent.
Oui, et qui font très conte populaire aussi. Comme la peau d'âne, finalement, on peut aussi rapprocher ça du conte de la princesse changée en cygne. Enfin, c'était aussi...
Oui.
Les animaux, ils ont souvent une grosse symbolique dans les contes. Pareil, le chaperon rouge, le loup qui se déguise en grand-mère. Il y a plein d'exemples comme ça de duplicité un petit peu par rapport aux animaux, finalement.
Ouais, là, c'est vrai que la peau d'âne qu'elle met, ça fait un peu dualité du personnage. Enfin, il y a ce côté, en dessous, c'est la princesse éblouissante, pure, et la peau d'âne qui représente un peu la bestialité, au final, quand même... au fond de chaque être humain. Enfin, elle a beau être pure et magnifique, belle princesse toute blonde, elle a un côté un peu bestial représenté par cette peau de bête, en fait.
Par rapport à la peau d'âne, comme tu dis, Pascal, moi, ce que j'avais vu aussi, c'était que, en fait, la salissure qui est ressentie par l'enfant du fait de cet amour paternel qui va beaucoup trop loin, beaucoup plus que là où il ne devrait aller, c'est matérialisé par la peau d'âne, en fait. C'est vêtements répugnants qu'elle choisit de porter pour représenter ce littéralement, c'est un tabou de nos sociétés en termes anthropologiques, quoi.
Ce qui est horrible, parce que du coup, ça veut dire que c'est la fille qui porte le péché de son père, quoi. Enfin, c'est
vrai qu'il y a plein de messages un peu subliminaux comme ça, dans tous les contes, mais là, particulièrement aussi.
Oui, c'est particulièrement fort. Et ce qui est intéressant, et Victor, tu l'évoquais aussi au tout début, c'est le fait que la princesse n'a pas de nom tant qu'elle vit chez son père, le roi, toujours l'enfante ou la fille d'eux. Et bon, même si après elle ne devient que Podane, entre guillemets, elle se forge une identité qui est plus à elle, une fois qu'elle part en fait du royaume. Mais pour autant, on ne connaît toujours pas son nom. Et je trouve ça un peu symbolique parce que c'est juste à la fin du conte où elle enlève sa peau et elle est devant le prince qu'on se rend compte de sa vraie identité, quoi.
Ouais, parce que personne ne l'a reconnue en plus. Donc du coup, c'est comme si finalement, elle n'avait pas vraiment... comme tu dis, Manon, elle n'avait pas vraiment d'identité. C'est juste une princesse parmi tant d'autres. Et bien sûr, bon, bah, le conte, on le spoil si on veut. Ça se finit en mariage, hein, tout va bien. Il y a même le roi qui vient aux festivités et dit « Ah, bah, je suis contente de vous retrouver, mon enfant. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. » Bon,
tout est oublié.
Tout est oublié, tout est pardonné.
Oui, ça, c'est très étrange.
Ouais, c'est comme un coup de folie, finalement, qui lui est passé. Et maintenant que sa fille est loin de lui, c'est bon, il peut passer à autre chose. Mais voilà, c'est un joli conte et qui emprunte beaucoup à d'autres histoires populaires qu'on connaît tous et qui rassemblent pas mal de folklore. Vous avez aimé ce conte, vous ?
C'est un peu délicat comme question. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est pas le conte qui est le plus facile d'accès, notamment avec la question de l'inceste. Enfin, c'est quand même assez particulier. Mmh. Et le fait est qu'il a, par exemple, jamais été adapté par Disney, qui a adapté genre les milliards de contes. Enfin, bon, c'est vrai. Ouais, il y a pas vraiment, enfin je pense que c'est un conte un peu à part, je trouve.
Ouais, c'est pas faux, je suis assez d'accord dans le sens où la thématique de l'inceste en fait alors autant dans énormément de contes, il y a les deux versions, hein. Il y a la version Disney qu'on connaît tous, mais après il y a les versions originelles où souvent il y a des histoires de mort de princesse ou de choses assez glauques. Là, pour le coup, c'est poussé à l'extrême. Mais j'ai aussi un peu été dérangée, moi, par la cohérence narrative, c'est-à-dire le gâteau. Pourquoi le prince demande en effet le gâteau et pourquoi il n'organise pas directement une sorte de rencontre avec Podane et sa famille. Et aussi la fin, enfin le père qui finalement il est roi, il envoie 1000 gendarmes, 1000 soldats, mais personne ne retrouve sa fille et du coup il oublie totalement et quand il la retrouve tout est oublié, tout est pardonné. Donc c'est assez étrange.
Mais en fait la morale du conte, on dirait qu'elle est juste par rapport à Podane en fait. C'est bien, elle a réussi à ne pas succomber aux assauts de son père et donc du coup finalement elle est récompensée à la fin. Mais il n'y a pas le côté punition du roi qui demande un truc horrible. C'est juste la récompense de la princesse qui a su résister, mais t'as envie de dire...
Oui, puis la récompense encore, c'est vite dit parce que d'une part... pendant du coup plusieurs mois ou plusieurs années, elle est victime et puis elle vit cachée, elle devient le souillon et elle peut pas être sa propre personne. Mais en plus, quand elle rencontre entre guillemets le prince pour la première fois, lorsqu'il l'observe par le trou de sa serrure, c'est plus ou moins question de manipulation également parce qu'elle sait qu'il est là, etc. Donc on ne sait pas si c'est juste un moyen pour elle de sortir de sa situation actuelle ou si c'est vraiment une question d'amour profond.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une notion de voyeurisme, encore une fois, elle est un peu passive du désir des autres.
Ouais, totalement.
Enfin, là c'est totalement. Le prince, elle prend les choses en main, mais finalement, lui, il l'observe à travers le trou de la serrure et du coup, elle finit par profiter de la situation, mais c'est quand même... c'est pas vraiment...
Problématique.
Ouais, quand il pense, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est spécial. C'est pas forcément le conte que t'as envie de raconter à tes enfants en premier.
C'est ça.
Quoi. Voilà. Bon, on va pas en dire plus sur le conte parce que c'est assez court. Hein, donc, je pense qu'on aura beaucoup plus de choses à dire sur le film.
Ouais.
Voilà, exactement. Donc, Jacques Demy a réalisé le film qui est sorti en 1970. Ce film se réclame d'être une libre adaptation du conte de Podane. Et nous vous passons la bande-annonce. Tout de suite.
Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser, ma fille.
La situation est-elle désespérée ?
Oh non !
Pourquoi non ?
Oh non !
Tu as raison, mon ami ! La fée des lilas !
Si tu as sillon, mérite attention. Mon enfant, n'épouse jamais ses parents. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manié.
trouve, comment dire, bien ordinaire.
Couleur de lune ?
Couleur de lune ?
Et que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur.
Vous l'appelez Poudin à cause de cette peau qui lui grimpe sur le dos.
Poudin ? Quel joyeux nom.
Qui ?
Poudin, vous ne la connaissez pas.
Un film de Jacques Demy sorti en décembre 1970. Jacques Demy était alors principalement connu comme réalisateur, mais également scénariste, dialoguiste, parolier, producteur et acteur. C'était un réalisateur français assez proche de la Nouvelle Vague, très très connu pour ses films musicaux notamment. Donc il y a eu Les Demoiselles de Rochefort en 1967, Les Parapluies de Cherbourg en 1964. Peau d'âne aussi est un de ses films les plus connus. Il a aussi sorti Une chambre en ville, Lola, Le joueur de flûte. Enfin, il a une filmographie assez dense et assez reconnue. Poe d'âne est d'ailleurs son 6e long métrage et c'est l'aboutissement de 8 ans de travail. Ça faisait longtemps qu'il voulait adapter un conte. Lui-même, il adorait les contes de fées quand il était petit. Il avait un théâtre de marionnettes sur lesquels il jouait des contes et notamment Poe d'âne. Et c'est comme ça qu'il a eu notamment envie de faire ce film, et notamment lui, il voulait insister sur le côté double lecture, une lecture pour les enfants et une lecture pour les parents. Et ça se ressent dans cette version de Poe d'âne. D'ailleurs, oui. Première question, est-ce que vous savez qui devait jouer dans Poe d'âne à l'origine, au début du projet ?
Oui, c'était Brigitte Bardot et l'Américain Anthony Perkins,
mais oui,
qui tournait à l'époque beaucoup en Europe.
Mais oui, mais ça c'est incroyable. Vous imaginez, ouais, Brigitte Bardot en Poe d'âne.
C'est vrai. Mais en même temps, je me dis, enfin, je trouve qu'elle a un peu le même style, entre guillemets, hein, de Catherine Deneuve.
Ah bon, moi je trouve pas du tout. Brigitte Bardot, c'est vraiment la pin-up c'est le style de la pin-up avec des formes et tout. Enfin, Catherine Deneuve, c'est vraiment. Elle est diaphane. Très classe, toujours. Enfin, je trouve que c'est pas du tout le même style, moi.
C'est peut-être plus une beauté froide.
Moi, je suis pas d'accord. Une beauté pour froide, le coup, j'aurais besoin d'imaginer Brigitte Bardot dedans, dans le sens où, dans la direction des acteurs, Jacques Demy leur demandait à tous d'être très maniérés et vraiment dans l'exagération. Et pour ce qui est des formes et de la volupté de Brigitte Bardot, de toute façon, vu la taille des robes que portait Catherine Deneuve, je pense que c'est pas quelque chose qui se serait particulièrement vu, quoi. Après, je ne suis pas
peut-être un peu
ressentie.
Moi, je trouve que Catherine Deneuve est vraiment parfaite pour cette princesse, justement, un peu maniérée. Je trouve qu'elle est vraiment bien.
Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, c'est finalement donc à la place de Brigitte Bardot et Anthony Perkins, c'est donc Catherine Deneuve dans le rôle de la princesse et Jean Marais dans le rôle du roi. Donc, effectivement, moi, Catherine Deneuve, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour l'époque pour faire une princesse. Moi, elle me fait beaucoup penser à la princesse Aurore dans La Belle au bois dormant de Disney. Cette silhouette très, très élancée, les longs cheveux blonds. Pour moi, c'est vraiment la princesse par
classique
excellence. Un peu.
Et...
Ouais. Elle est sublime dans chacune des robes.
Mais moi, je trouve déjà... qu'elle a... Pardon.
Ouais, non, elle était habituée à travailler avec Jacques Demy,
oui,
du coup. Hein, puisque...
bah, vu oui, qu'elle avait déjà joué Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg, puis Delphine dans Les Demoiselles de Rochefort, voilà, elle est devenue un peu son actrice fétiche, finalement. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça qu'il l'a choisie, parce qu'en plus, je crois que le budget pour avoir Brigitte Bardot et Anthony Perkins, c'était un peu trop dantesque. Donc, voilà.
Et là, on retrouve aussi le couple des Demoiselles de Rochefort, puisque...
Oui.
Enfin, le prince, du coup, est joué par...
Jacques Perrin.
Ouais, voilà. Qui joue Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort.
Voilà.
C'est rigolo.
Voilà, il est plus blond, péroxydé. mais il porte des culottes courtes. Ça change. Et Jean Marais, du coup, qui est un acteur français et aussi très, très, très connu pour l'époque. Il a joué notamment dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Donc, il avait aussi cette patte de conte de fées. Enfin, il avait déjà ce passif de rôle un peu inquiétant aussi, hein, parce que dans le rôle du roi...
Cocteau, comme tu disais, il a beaucoup inspiré l'univers de Jacques Demy.
Ouais.
Et tout à l'heure aussi, tu mentionnais que quand il était plus jeune, il faisait des marionnettes et qu'il a toujours été fan de contes, Jacques Demy. Et en fait, je ne sais pas si tu avais vu, mais dans les années 50, donc quand même il y a 20 ans avant la sortie du film Peau d'âne, il avait fait le script d'une possible adaptation sur La Belle au bois dormant. Mais en fait, ça n'avait pas pu donner suite pour plein de raisons. Déjà, il n'était pas assez connu, pas assez de budget, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il a choisi de travailler sur Peau d'âne en concertation aussi avec sa femme, Agnès Varda. Parce qu'il trouvait que c'était un conte intéressant, mais aussi complexe et singulier.
Oui, oui. Ce qu'il disait, c'était que c'était quand même un peu étrange, ce roi qui s'obstine à vouloir épouser sa fille. Et du coup, ça pose pas mal de questions. Et en même temps, ça contient tellement de références aussi aux autres contes que c'est vraiment l'univers du merveilleux aussi qui prime, mais avec...
Et ça lui a permis aussi de laisser libre cours à toute sa créativité, son imagination. Adapter un conte, c'est quelque chose qui est particulier. Mais du coup, lui, voilà, il voulait... Il évoque de nombreuses influences dans ce film. Donc, on a parlé du théâtre de Guignol, qu'il affectionnait quand il était plus jeune. Il y a aussi les gravures de Gustave Doré, la poésie de Prévert, donc le cinéma de Cocteau. La peinture Renoir, Matisse, Vermeer. Il évoque aussi Walt Disney. Ou encore aussi la pop culture des années 60. Parce qu'il a aussi il a eu un passage aux États-Unis avec tous les mouvements hippies, etc. Et ça se retrouve un peu dans le film, ce qui est assez étonnant. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez du trône du roi et de la reine.
Rouge.
En fait, c'est un trône où au-dessus, il y a une espèce de femme nue avec un arc-en-ciel. Enfin, on dirait vraiment un truc des années 60, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un univers assez particulier et je trouve qu'il a su bien, en tout cas, le rendre et l'adapter à l'écran, ce qui n'était pas forcément facile à l'époque et qui a d'ailleurs causé pas mal de soucis de budget et de production. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, quand il a lancé son projet d'adaptation, à l'époque, il n'y avait qu'une seule adaptation de Peau d'âne qui était déjà portée sur le grand écran, donc qui datait de 1908. C'était un court-métrage, c'était muet, c'était du noir et blanc. C'était assez différent. Et en fait, l'intrigue avait été modifiée pour pas justement inclure la dimension de l'inceste. Et du coup, en fait, le scénario de Demy, c'est le premier qui respecte la thématique problématique, hein, mais du conte original.
Oui, mais en même temps, c'est vrai que si tu enlèves l'inceste, comment raconter cette histoire?
En fait, l'argument, donc c'était une adaptation de Émile van der Burch et Laurent Saint, et ils avaient dit que si la princesse devait porter une peau d'âne, c'était pour châtier sa coquetterie et non plus pour échapper aux yeux de son père.
Ah bah oui,
c'est un gros déplacement du problème sur la femme.
Comme d'habitude.
C'est ça. Bon, 1908.
Oui, donc il avait champ libre devant lui, finalement, Jacques Demy.
Oui, d'ailleurs, il a adapté aussi un petit peu certains personnages. Autant le prince et la princesse, ils sont assez fidèles à la représentation dans le conte. Autant, par contre, la fée des lilas...
C'est un personnage grandiose hein, dans le film.
Qui est joué par Delphine Seyrig. Il a complètement transformé ce personnage qui est vraiment une conseillère, une amie, une aide dans le conte. Et là, il l'a fait un peu... perverse dans le sens où elle a clairement un double jeu.
Parce qu'elle est clairement intéressée en fait. Elle aide Peau d'âne à échapper à son père parce qu'en fait elle veut se marier avec le roi.
Ouais, donc en fait Peau d'âne au lieu de l'aider en fait c'est juste une concurrente, enfin une rivale.
Oui, elle essaie de se débarrasser en fait de sa filleule. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est quand même malgré le fait que le père veuille se marier à sa fille et qu'il lui fait des preuves d'amour, des sacrifices ultimes, donc en tuant son âne par exemple, la fée veut toujours être avec cet homme.
Ah oui, elle ne lâche pas l'affaire, on peut le dire.
Et elle est assez coquette, elle parle de son physique,
Elle se regarde dans le miroir, elle a une robe fendue, elle est en mode pin-up total.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est un personnage qui, je trouve, incarne bien ce film, un peu entre tradition et modernité. Parce que c'est une fée qui habite dans la forêt, avec des animaux, etc. Mais par contre, elle a un téléphone portable, elle arrive en hélicoptère.
Elle voyage dans le temps.
Au calme, quoi,
Oui, bah c'est vrai que c'est un personnage, c'est elle qui représente un peu tous les anachronismes de l'histoire et qui fait le pont entre l'ambiance plus d'époque, on va dire, avec les robes somptueuses de Podane, la cour du roi, etc., et la marraine la fée qui a les cheveux courts, qui a une robe fluide avec une collerette, qui porte des talons hauts, l'hélicoptère, etc.
Oui, mais il s'est un peu inspiré de Jean Harlow, l'actrice Jacques Demy, pour ce look-là. Et du coup, il voulait qu'elle soit un peu coquine et sulfureuse, alors que normalement, c'est vrai que dans les contes traditionnels, même quand tu regardes dans les Disney, les fées, souvent, ce sont des personnages, ce sont des vieilles dames, etc., un peu ronds et tout, ou des vilaines sorcières, mais ce sont globalement des personnages assez asexués, finalement. Et là clairement, il a voulu faire l'effet inverse total avec ça.
C'est vrai je trouve qu'elle incarne vraiment l'esprit du film, qu'on peut aussi retrouver dans la musique, donc musique de Michel Legrand, souvent avec Jacques Demy. Et c'est une partition qui est aussi en fait entre le baroque, donc pour vraiment le côté ancien conte, et aussi le jazz, la pop. Enfin, il y a un mélange des styles qui est assez intéressant aussi au niveau de la musique.
Oui, et qui vraiment répond aussi bien au côté conte de fées, parce que le début, la musique très très lyrique, avec un peu grandiose dès le départ, avec le livre qui s'ouvre, ça c'est clairement Disney. Je veux dire, c'est exactement ce qu'ils avaient fait sur Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, le livre qui s'ouvre avec cette grande musique, c'est hyper inspiré. Et c'est vrai qu'après, les chansons, elles ont toutes chacun une ambiance très différente, parce que là, du coup, il a voulu en faire aussi un conte musical, finalement. Et du coup, chaque personnage a un peu sa chanson, des fois avec des leitmotifs qui reviennent et qui traduisent plutôt bien aussi la personnalité des personnages. Enfin, la première chanson qui est Amour par Catherine Deneuve, donc Podane, on voit le côté un peu vraiment innocent. Elle joue sur son orgue avec un perroquet. Enfin, c'est vraiment la princesse qui vit dans son monde, quoi, en rêvant d'amour. Alors que tout de suite après, la chanson de la fée des lilas qui lui donne des conseils.
C'est plus cynique.
Là, c'est beaucoup plus drôle. C'est une double lecture totale, parce que c'est quand même. Elle fait genre la situation mérite attention. Sauf qu'en fait, non, ça mérite pas attention. C'est non. C'est un no-go, quoi. Tu n'épouses pas ton père. Et on voit aussi le côté double discours pour les enfants et pour les adultes avec certains mots employés. Parce que par exemple, à un moment, la Félicia, dans sa chanson, elle dit se marier avec son père, ça peut donner une progéniture altérée. Donc une chanson un peu gentille de dire des enfants mal formés. Enfin,
la consanguinité, c'est mal.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, comme tu le dis, Victoire, plusieurs niveaux de lecture. Et mais d'ailleurs, Jacques Demy l'a bien illustré avec l'objet du miroir qui est présent tout à travers le film. Et du coup, qui montre bien à la fois cette dualité des personnages, ce questionnement intérieur. Par exemple, la sincérité des sentiments du père, mais aussi de la fille, qui, Podane, se demande si son attachement pour son père, il est suffisant pour l'épouser, mais aussi le prince qui désespère de pas trouver le véritable amour, puis la manipulation de la fée, comme on vient de l'évoquer. Donc c'est vrai que c'est assez c'est une analyse qui est un peu plus profonde que le conte, dans le sens où on creuse un peu plus la personnalité de chacun.
Ouais, il y a une motivation.
Enfin, il accentue cette dualité aussi avec par exemple les couleurs. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que dans le conte, on parle pas du tout du royaume bleu, du royaume rouge. Là, on a le premier royaume qui est tout bleu.
Même les gens sont bleus.
Même les gens sont bleus. Enfin, genre les serviteurs sont bleus, ok. Et les robes, enfin voilà, tout est dans un univers bleu qui, donc d'après lui, symboliserait un peu le passé, une monarchie qui serait restée ancrée dans ses traditions, etc. Et le bleu peut aussi faire penser à Barbe Bleue. Donc référence à un autre conte où, effectivement, Barbe Bleue qui tuait toutes ses femmes, etc. Donc ça, c'est le père qui pourrait être aussi un parallèle, voilà, avec Barbe Bleue. Et à côté de ça, le rouge, donc le royaume rouge, c'est plutôt la modernité, la révolution. Enfin, le rouge, c'est une couleur très
Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. En plus, bah, quand tu compares du coup les trônes, voilà. Le père, le roi bleu, lui, il est assis sur une espèce de chat géant.
Ouais, le fameux chat.
En peluche.
Tiger King en mode Podane.
Voilà, alors que c'est vrai que le roi et la reine rouge, ils sont sur leur trône de hippie. Là,
ouais,
avec,
de hippie. Et c'est ça, c'est plus. C'est moderne. C'est un changement d'air. Enfin voilà, il y a un côté comme ça, un peu. Ouais, je sais pas, aussi un passage peut-être à l'âge adulte. Enfin, il y a plein de symboliques en fait qu'on peut voir dans les couleurs.
Mais surtout, faut peut-être mettre les pieds dans le plat et parler de l'énorme différence qu'il y a entre le conte et le film. C'est que dans le film, Podane, enfin, elle veut se marier avec son père. Enfin, elle hésite. Ouais. Elle se questionne simplement sur le fait. Est-ce que ça se fait? Mais elle n'arrête pas de dire qu'elle l'aime tellement.
Mais il est si gentil. Je devrais peut-être l'épouser en fin de compte.
Bah non, mais c'est pas, elle peut pas vraiment l'épouser. Elle est en mode c'est mon père, je l'aime, c'est mon père. Mais et elle sait pas trop. Elle est hyper naïve en fait.
Elle a peur de le vexer aussi.
Elle a peur de le vexer, mais elle veut pas vraiment l'épouser. Enfin.
Parce qu'elle veut pas lui dire non en fait. C'est ça le
problème.
Oui,
c'est plutôt
ça.
C'est plutôt ça. Oui.
Après, franchement, moi je trouve qu'il y a vraiment une ambiguïté qui est très dérangeante parce que non seulement bon, elle va avoir sa marraine la fée pour des explications, finalement, Marraine l'a fait, sous prétexte de la décence sociale, elle l'éloigne de son père, mais pour autant, Podane, elle hésite quand même. Et jusque la fin, où elle se marie donc avec le prince, mais quand elle voit son père pour la première fois depuis qu'elle est partie du château, et qu'il est marié, elle a une moue quasiment déçue.
Franchement,
non,
je sais pas,
mais,
parce que...
Moi, je pense que ça représente bien. Enfin, je veux dire, dans des cas d'inceste, c'est horrible. Enfin, je veux dire, mais les enfants, ils sont en mode... bah, en fait, c'est mon père, j'aime mon père. Du coup, c'est pas forcément mal. Enfin, je veux dire, c'est la réalité, en fait, de l'inceste. Hein, c'est horrible. Les enfants, bien sûr qu'ils sont pas consentants, mais c'est en mode, ils aiment leur père. Enfin, là, c'est vraiment pareil.
C'est le flou des frontières.
Bah
ouais.
Oui.
Après, je trouve que... L'ambiguïté est assez levée au moment où justement quand elle lui demande de tuer son âne, de lui apporter sa Podane. D'ailleurs, ce que la fée lui souffle, hein, Podane au départ, elle dit mais non, mais ça va pas ou quoi, je vais pas lui demander ça. Elle le demande finalement en désespoir de cause. Et là, on se rend compte aussi que la fée, elle savait très bien parce que la fée, elle peut voir l'avenir. Donc en fait, elle avait très bien vu que les robes, ça ne fonctionnerait pas et que ultimement, il faudrait qu'elle demande le sacrifice de l'âne. Bref. Et le roi, il y a une scène aussi très dérangeante où il entre dans la chambre de Podane la nuit, et il dépose la peau de l'âne sur elle, enfin sur le lit, quoi. Et là, elle se réveille, elle hurle en voyant l'âne avec ses yeux vides qu'il regarde, mais c'est... Là, pour moi, à mon avis, à partir de là, il n'y a plus trop de doute, elle a clairement pas envie d'épouser son père, enfin... C'est quand même terrifiant, quoi. Et pour le coup, tu parlais tout à l'heure, Manon, de la souillure que représente l'inceste sur elle.
Ouais.
Là, je trouve que ce côté, il la dépose sur son lit, il l'embrasse sur le front et tout... Pour moi, c'est clairement, on est clairement là aussi dans ce code-là, quoi, dans la salissure.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que le roi, on retrouve l'épisode du conte aussi où le roi va voir son conseiller pour être guidé et orienté sur est-ce qu'il a le droit de demander sa fille en mariage, etc.
Son conseiller qui est d'ailleurs dans un laboratoire maléfique.
Oui, c'est un peu genre le savant fou, quoi. Mais cette scène est creepy as fuck. Parce que franchement, il commence à lui dire que tout est normal et que de toute façon, toutes les petites filles, elles disent que quand on leur demande avec qui elles veulent se marier, elles veulent se marier avec leur père. Et c'est quand même super inquiétant.
Oui, mais Jacques Demy, je pense qu'il le fait exprès. C'est vraiment, il
bien
joue
sûr, non,
sur
mais bien
cette
sûr.
Ambiance très inquiétante avec de l'humour très noir finalement. Et ça fonctionne très bien parce que comme en plus on est dans une espèce de royaume où on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe, on a le château de Chambord, on a l'autre château, les costumes, ils ont tous des styles un peu différents, donc pour un peu brouiller les époques, ça ajoute aussi ce côté où tu n'es plus sûr de la loi, tu n'es plus sûr de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit, et ça fonctionne assez bien.
Oui, et ça, les différents décors, les différents costumes, ça place effectivement cette histoire, on sait pas où la placer dans le temps, dans l'espace, et ce qui fait que ça reste assez intemporel en fait, comme un conte devrait l'être. Donc je trouve que c'est plutôt plutôt bien fait. Enfin,
puis c'était beaucoup tourné aussi en décor réel,
oui.
Et ça c'est hyper appréciable parce que il y a beaucoup de films qui vieillissent très mal. Enfin, quand on regarde par exemple
Le château bleu, c'est le château du Plessis-Bourré, et le château rouge, c'est le château de Chambord. Et quand même, enfin je veux dire, ils ont pu tourner à Chambord, ça va, c'est pas mal. Hein.
Ouais, et en plus, ouais. Donc, en plus c'est marrant parce qu'ils avaient droit qu'à une aile coupée aux touristes, donc du coup c'était un peu compliqué des fois pour s'organiser. Mais même quand tu vois les décors de la forêt très luxuriante, il y a des fleurs partout, donc c'est vraiment cet univers très très onirique, très beau et très très magique finalement du conte, avec les châteaux aussi, la petite cabane dans les bois, la petite cabane, la hutte nichée au creux des arbres et tout. Enfin, c'est hyper, hyper beau et du coup...
On sent que c'est travaillé.
Ouais, voilà.
Et d'ailleurs, un petit fun fact sur les effets spéciaux. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. Ce qui, je trouve, permet au film de rester assez merveilleux. Enfin, il est tellement hors du temps qu'il ne vieillit pas vraiment. Enfin, c'est... par exemple, pour les saisons, donc ils pouvaient pas tourner dans chaque saison, et ils ont mis un cadre en verre, où ils ont mis genre de la fausse neige ou des fausses feuilles devant le château pour faire le cadre, pour montrer les saisons qui y passent.
Oh, trop marrant.
Et en fait, ça va, ça passe bien. Enfin.
Oui, c'est vrai que pour l'époque, en tout cas, on voit que c'est quand même bien, bien réalisé, mais... De ce que j'ai lu, c'est vrai que ça avait l'air d'être, bon, peut-être pas un gouffre financier non plus, mais un budget très très important, et que ça a été compliqué en fait à cause de ça pour tourner le film. Si bien que Jacques Demy et Catherine Deneuve, ils ont mis tous les deux leur salaire en participation, et Demy a dû faire de nombreuses concessions par rapport à la mise en scène ambitieuse dont il rêvait pour ses premières versions du scénario, où il voulait faire notamment tout ce qui était des plans mobiles et utiliser des grues et faire des travelling. Finalement, tout ça n'a pas pu être possible parce que une grande partie des financements, ça s'est concentré notamment sur les décors et les costumes, bien sûr, qui étaient, enfin, qui sont assez assez fous, quoi.
Ah, les costumes sont vraiment magnifiques. Bah, c'est notamment, là, je parle des costumes animaliers. C'était géré par Hector Pascual et son atelier. Et en fait, ils ont fait notamment donc les costumes pour le bal des chats et des oiseaux qui a lieu au Château Rouge vers le milieu du film. Il a aussi utilisé une vraie peau d'âne, vrai âne.
Cherché à l'abattoir.
Voilà, c'est horrible. Et en plus, ils ne l'ont pas dit à Catherine Deneuve parce qu'ils se sont dit que sinon, jamais elle ne voudrait enfiler...
Enfin, ils ont quand même mis une doublure et ils ont mis un truc pour pas que ça sente. Hein.
Bah, encore heureux, hein. Et en plus, c'était nécessaire parce qu'en plus, ils ont dit que s'ils faisaient pas ça, s'ils ne travaillaient pas la peau, elle aurait grouillé de verre.
Oh,
de verre.
Donc, glauque.
Et du coup, bon, ça paraît, c'est bien fait. Hein, Il y a aussi Agostino Pace.
C'était 100% réaliste. Mais apparemment, c'était super lourd à porter. Et elle devait avoir des petits tabourets sous ses jupons pour se reposer.
Bah, les robes, qui sont quand même. Enfin, est-ce qu'on peut parler de la robe couleur de temps?
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment bien fait parce que c'est un petit. Enfin, ça paraît pas très compliqué à faire, en fait. Ils ont mis une matière en scotch light qui fait comme un espèce d'écran sur lequel ils ont projeté un film de ciel avec des nuages qui passent. Donc, en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait la robe. Mais du coup, en fait, ils projetaient en temps réel et ils filmaient. C'est pas en post-production, quoi. Ils ont vraiment...
Ils suivaient Catherine Deneuve.
Ils suivaient Catherine Deneuve avec ce film qu'ils projetaient en direct. Enfin, c'est assez marrant, quoi.
C'est vrai que des fois, on voit un petit peu que ça déborde, mais c'est assez léger. Enfin,
c'est quand même bien fait. C'est à l'ancienne et je trouve que... Voilà, ils ont pas mis de budget dans les effets spéciaux, mais en même temps, s'ils avaient fait des effets spéciaux en 70, je pense que ce serait horrible aujourd'hui. Hein.
Oui. Bah oui, mais je pense que c'est pour ça que le film a pas si mal vieilli. C'est aussi parce que c'était beaucoup de trucage finalement à l'ancienne, même quand on voit par exemple la fée des lilas apparaître et disparaître.
Qui s'envole.
C'est vraiment dû, ils mettent la caméra sur pause et hop, elle s'en va. Donc c'est vraiment des disparitions comme ça un peu à l'ancienne. Ils font des effets de ralenti. Voilà, c'est pas très compliqué. Notamment la course de peau d'âne dans la forêt qui fait très, très onirique quand elle s'enfuit en courant au ralenti. C'est très beau, ça fonctionne. Et en plus, c'est inspiré de La Belle et la Bête de Cocteau, parce que t'as une scène comme ça aussi où tu vois Belle qui court.
Et en plus, là, il y a vraiment un effet et qui rappelle aussi Cendrillon, parce que elle part avec sa peau d'âne d'abord dans un carrosse, et au milieu, le carrosse se transforme en charrette, en fait.
Ouais.
Et du coup, et après, c'est aussi au ralenti, donc avec cette course dans la forêt, et donc ça fait vraiment passage d'un monde à l'autre, avec cette transformation, et c'est voilà, un passage un peu, c'est la fin de l'innocence, elle est dans le monde réel, c'est plus la petite princesse qui joue son clavecin. Maintenant, elle s'occupe des cochons, quoi. Enfin,
Oui, et quand tu vois où elle va vivre, le village, il baigne dans la fange où elle va s'installer. La dame qui l'accueille, c'est une vieille mégère aux cheveux rouges qui crache des
crapauds.
Voilà, fallait quand même l'inventer. Et sa cabane au début, bon bien sûr, heureusement qu'elle est partie avec la baguette magique de sa marraine parce que du coup elle peut un peu repimper sa cabane. Moi ça m'a trop fait penser à Mary Poppins.
Oui.
En mode allez, le lit, paf, coup de baguette magique, le lit devient magnifique.
Et c'est vrai qu'il y a plein de références cachées en fait dans ce film.
Oui, tout à fait.
Mais par contre, les robes, ce que j'ai lu aussi, c'était que les sublimes robes du temps, couleur du temps, couleur de lune et couleur de soleil, elles n'ont pas été conservées. Et du coup, en fait, je ne sais pas si tu y avais été, toi, Pascal, en 2013, il y avait une exposition à la Cinémathèque française sur Jacques Demy. Bah, ce n'était pas les vraies robes, c'était de reproduction.
C'est une reproduction. Ah,
parce qu'en fait, les vraies robes n'ont pas été conservées dans de bonnes conditions et du coup, en fait, elles étaient inexploitables. Elles sont...
Ah, c'est fou, ça, quand même.
C'est dingue, tu te rends compte. Enfin, c'est à l'époque... Ouais.
Le travail sur ces robes, la robe, la couleur de lune, je crois que c'est serti de plein de perles ou de cristaux Swarovski. Enfin, il y a tout un truc... C'est assez extraordinaire, quoi.
Ouais, et puis même la robe couleur du soleil, elle est emblématique. Et en plus, quand elle la met, ils font un espèce d'effet comme si elle projetait des lumières, du soleil tout autour d'elle. Ouais, c'est triste de se dire que ça n'a pas été conservé. Mais bon, il y a eu les reproductions, donc finalement, ça allait.
Ouais, mais c'est vrai que le passage du temps, finalement, fait que... Des fois, on peut pas tout garder. Mais ce qui est drôle, moi, j'avais lu que en 2012, il y a eu une équipe de fouilles archéologiques menée par Olivier Vélard, qui est chargé de recherche au CNRS, qui a investi le bois du château de Neuville à Gambet pour retrouver les lieux et les traces du tournage du film. Donc du coup, ils se sont concentrés surtout sur les scènes où il y avait la cabane de Podane dans la clairière de la Fée des Lilas.
Ouais.
Et ces recherches, ils ont trouvé plein de choses, plus de 4000 objets, notamment des brisures de vaisselle quand elle fait le gâteau.
Attends, qui avait été abandonné là ?
Cigarettes. Oui, qui était resté là en fait.
C'est dingue.
Et et après bon, les propriétaires en fait, ils avaient détruit la cabane apparemment, mais du coup ces recherches, elles ont donné lieu à un film documentaire qui a été réalisé par Pierre-Oscar Lévy et Olivier Vélard qui s'appelle Podane et qui est sorti en avril 2018 et qui avait reçu notamment le prix du public pendant le festival d'archéologie de Clermont-Ferrand avec une mention spéciale du jury au Festival international du film d'archéologie de Rovereto.
Ça existe, ça.
C'est incroyable.
Le film d'archéologie. Enfin,
c'est
fou de faire
une fouille
auprès d'un tournage de film qui en plus n'était pas il y a si longtemps que ça, et d'en faire un documentaire. Je trouve ça assez assez fou.
C'est clair. Et du coup, dans la deuxième partie du film, quand Podane, elle est dans son village, l'ambiance change du tout au tout. Il y a aussi cette fameuse chanson, les insultes, où il y a globalement tout le village qui traite Podane dans chanson. Ça, c'est quand même assez fort. Tout le monde lui dit « Ouais, elle pue, c'est une souillon. » Voilà, donc là, c'est vraiment la dégringolade totale en termes de
place sociale.
Voilà. Et il y a d'ailleurs un acteur humoriste très connu qui fait un caméo pendant cette chanson. À votre avis, qui ?
Coluche ?
Oui ! T'as révisé, Manon. Et oui.
Bah, c'est vrai que les chansons sont quand même assez drôles, hein, globalement. Enfin, des fois, c'est un peu what the fuck, genre la chanson, la promenade amoureuse là, entre le prince et Podane, où il se roule littéralement dans la campagne.
Ah,
c'est
moi,
énorme.
J'adore.
C'est
rêve
énorme.
Secret d'un prince et une princesse. Ouais. Je crois que c'est ma chanson préférée.
Il se roule au ralenti dans les prés.
J'ai une petite anecdote sur cette chanson, parce que Jacques Demy, il a fait supprimer certaines des répliques au sous-entendu trop érotique qui était initialement prévu dans les paroles de cette chanson-là et qui donnait un peu du style... Alors attendez, je retrouve la citation. « Nous ferons ce qui est interdit jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'ennui.
» Ils ont gardé le début de la phrase, mais ils disent « Nous fumerons la pipe en cachette. » Je suis désolée, si ça aussi, c'est pas une... Un petit clin d'œil aux années 60 et...
Oui, nous fumerons la pipe en cachette et nous mangerons des pâtisseries. Okay.
On va manger des space cakes, ouais.
C'est louche.
Non, mais elle est hyper mignonne, cette scène. Mais même, je trouve que la scène de rencontre entre le prince et Podane, bon, encore une fois, c'est à sens unique aussi. Bon, cette fois, il regarde par la serrure, puis il grimpe un peu sur le toit pour regarder Podane, parce qu'il y a une espèce de mur magique qui entoure la cabane de Podane. Et donc, il la voit, il la trouve trop belle, Et ensuite, il fait une petite chanson dans la forêt en mode « Il me faut la revoir ». Et moi, ça, j'aime bien. C'est mon côté romantique, c'est, j'ai été vraiment emportée. Bah, après, c'est parce que j'entendais aussi Maxence, tu vois. Il y a quand même une similarité entre la chanson de Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort et là, la chanson du prince dans Podane. Mais moi, c'est le genre de chanson, de petite balade amoureuse que j'avoue, j'aime bien. Et c'est vrai que cette chanson, ça permet d'attacher aussi un petit peu plus le public, je pense, à la relation entre Podane et le prince. Parce que c'est vrai que finalement, on le disait dans le conte, c'est vraiment... c'est le minimum du minimum en termes d'échanges.
Oui, c'est faible.
Et tandis que là, bah, comme il y a la balade du prince, il y a ensuite la chanson du cake d'amour où elle prépare son gâteau en chantant... D'ailleurs, elle est très drôle, cette scène, puisqu'elle est dédoublée, Podane.
Oui. Il y a Podane avec la peau de bête qui... lit la recette et Podane dans la robe couleur de soleil qui fait le gâteau.
Qui cuisine.
Voilà, donc et apparemment, il y a plein de gens qui ont essayé de faire la recette telle que décrite dans le film et c'est dégueulasse. Donc, un conseil, ne suivez pas cette recette.
Utilisez quand même une jatte plate si vous en avez. Mais oui, voilà, donc là, ça ancre un petit peu plus la relation du prince et la princesse dans la réalité, le fait qu'il y ait sa chanson. Ensuite, à un moment, du coup, quand il mange son gâteau, le prince, c'est là qu'il y a la chanson « Rêve secret d'un prince et une princesse » où ils sont tous les deux transparents dans des chemises de nuit en train de courir dans la forêt ensemble.
Ça fait vraiment aussi très hippie, onirique. J'ai fumé un petit pet, enfin... Hein,
Moi, ça me fait penser aussi à Disney. Enfin, c'est pour moi, c'est...
Oui. Non, mais il y a tellement d'influence. Enfin, c'est sûr que c'est un mélange de tellement de choses, ce film, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui me fait que c'est un film culte.
Oui, et puis il y a aussi tous ces côtés, les jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots dans Podane, aussi bien dans les chansons que dans les dialogues. Genre à un moment, quand le prince dit à sa mère « Je veux un gâteau fait par Podane », elle répond « Dodane !» Et tu, ouais. En fait, tu te dis « Bon, c'était un peu facile, mais il fallait la faire. »
Oui, il y a aussi le conseiller d'un des rois, je ne sais plus lequel, qui se trompe, qui est genre dyslexique et qui n'arrête pas de se tromper de mots toutes les 5 minutes. Je sais pas, c'est un petit côté comique de répétition, mais qui est assez marrant. Enfin, c'est facile, mais...
Il y a le couturier aussi du Roi Bleu qui, à un moment, il dit « Une robe couleur du temps, c'est embêtant !»
Oui.
Un peu à l'ancienne, mais c'est marrant quand même, comme ambiance. Ça permet aussi de, je pense, de faire des petits clins d'œil à l'adresse des parents, enfin des adultes.
Bah, c'est ça, il veut vraiment qu'il y ait une double lecture, que les enfants puissent voir le côté merveilleux et que les parents, que ça puisse plaire aux parents et qu'ils puissent voir le double sens.
Mais il y a aussi le côté horrifique, hein. Donc on a parlé de l'inceste du roi qui est vraiment très dérangeant et qui est pas du tout dissimulé. Il y a aussi la scène de l'essayage de la bague vers la fin du film, où il y a une chanson encore une fois, où dans la chanson il y a quand même les princesses, les paysannes et compagnie qui expliquent que tranquille, elles se font presser le doigt ou elles se coupent un bout du doigt pour pouvoir essayer la bague.
Elles sont prêtes à tout, elles prennent des potions qui leur font doubler.
Ça rappelle... Ça rappelle totalement Cendrillon oui. Quand les femmes elles veulent essayer le chausson mais que le pied est trop petit donc du coup elles se forcent à rentrer dedans et
elles coupent leurs orteils.
Enfin voilà.
Il y a quand même un mec qui dit il faut souffrir pour être belle hein. Donc merci.
Ouais.
Ouais, c'est un peu le message un peu étrange et mais bon bien sûr heureusement à la toute fin la toute dernière personne à arriver c'est bien sûr Catherine Deneuve dans sa peau d'âne et là d'un coup elle enfile la bague et là la peau d'âne tombe sur le sol et ça y est, elle a le visage
sous les
parfaitement...
yeux ébahis du royaume tout entier.
Son visage est débarbouillé, elle est dans sa robe couleur du soleil et c'est magique. Et là, ça y est, ils se marient.
Et là, le mariage est le mariage qui est bien sûr donc tout en blanc et aussi dans la symbolique des couleurs. C'est voilà l'union des royaumes sont un peu abolis, le rouge, le bleu, non, tout le monde est en blanc. Et voilà, la pureté.
Et c'est la pureté de l'amour parce que
c'est beau, c'est beau.
Quand ils étaient dans les rêves secrets, c'est pareil, ils portaient des chemises blanches. Donc là, c'est
encore oui, c'est la pureté, c'est... l'innocence.
Voilà, c'est un amour beaucoup plus acceptable que celui du roi. Et donc, du coup, le roi bleu qui arrive en hélico avec la fée des lilas.
Surprise !
Et ça, c'est très drôle parce que du coup, la dernière phrase prononcée par un personnage dans le film, c'est « Tout est arrangé, mon enfant, j'épouse votre père.
» Oui.
T'as envie de dire, c'est ça qui arrange la situation. Pareil, c'est du coup, la morale, elle est complètement twistée par Jacques Demy. Il renverse totalement le fin mot de l'histoire, finalement, par cette phrase de la fée des lilas.
Bah, disons que la fée, qui est censée être le symbole dans les contes, de façon générale, de la morale, de la décence, de la voie de la sagesse...
Et du Deus Ex
Machina aussi. on se rend compte de son motif ultérieur qui était de chasser donc Podane pour se marier au père, parce que dans le conte, par contre, le roi se marie avec une veuve qui n'est pas la fée marraine et qui ne lui donne pas d'enfant. Donc c'est quand même une interprétation.
Ah, donc en fait, il était puni quand même un petit peu, puisqu'il a plus de descendance.
Mais il a plus de descendants, mais le fait que sa fille se marie avec un prince, c'est l'union des deux royaumes, et du coup, c'est un peu son héritier, et leurs petits enfants, enfin leurs enfants, ce sera, enfin peuvent poursuivre la descendance.
Et leurs amours resteront légendaires. Désolée, j'ai chanté ça à Hugo littéralement toute la semaine. Je pense qu'il en a marre de moi. On a fait un bon tour du film, je pense.
Je pense, ouais.
Vous trouvez que ce film est fidèle au conte dont il est adapté, Manon?
Alors, j'hésite en fait, parce que le fait que ce soit un conte, ça veut dire que c'est un texte qui est si court, c'est compliqué à adapter à l'écran, parce qu'on est forcé d'ajouter des choses. Après, je trouve que Jacques Demy a fabuleusement bien rendu et retranscrit l'ambiance, les personnages, les costumes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux gros changements dans l'arc narratif qui, bien que ça ne modifie pas l'histoire, ça peut quand même... ça change quand même l'histoire originale. Donc je suis un peu partagée. Mais après, c'est quand même bien adapté.
Ouais.
Et toi, Pascal ?
Moi, je trouve, comme il le dit lui-même, c'est une libre adaptation du conte.
Voilà.
Et je trouve qu'il l'a vraiment magnifiquement fait, en fait. Enfin, et je voudrais finir avec cette citation de Michel Legrand, qui a dit que c'était comme si Andy Warhol tendait la main à Perrault. Je trouve que c'est un bon résumé du film.
Mmh,
c'est vrai, c'est pop, et c'est en même temps très fidèle à l'univers merveilleux du conte. Et je suis assez d'accord, je trouve que c'est quand même très fidèle, parce qu'il reprend effectivement, à part le gros twist de la fée des lilas, finalement c'est quand même très fidèle à l'histoire. Enfin, on suit vraiment narrativement, on suit la trame du conte. Et,
oui.
Et mine de rien, Jacques Demy a quand même réussi à intégrer pas mal de phrases qui sont dans le conte, parce qu'on l'a dit, le conte était en vers, et il y a pas mal de fois où les personnages dans le film de Jacques Demy s'expriment aussi en vers, où ça rime. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du mariage, il y a le narrateur qui reprend et qui dit « Voici comment l'histoire de Podane se termine, et tant qu'il y aura des mères grands et des enfants pour y croire, il perdurera dans le temps, je ne sais pas quoi. » Et en fait, ça reprend exactement la fin du conte en vers. Donc c'est vrai qu'il s'affranchit un peu de certaines limites du conte, il rajoute quelque chose, il rajoute surtout les chansons qui permettent aussi de meubler, mais qui permettent aussi d'enrichir le film et la psychologie des personnages. Mais quand même, c'est un très bel hommage à Perrault, et pour moi, ça reste quand même très, très fidèle.
Mmh.
Peut-être encore plus dérangeant à certains niveaux, mais voilà. Du coup, Podane est considéré aujourd'hui comme un film culte, grâce notamment à l'audace de ses thèmes et son parti pris visuel, ainsi qu'à sa musique, intemporelle signée par Michel Legrand. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, il y a eu Podane, une féerie musicale au théâtre Marigny, à Paris. Je l'ai raté malheureusement, mais voilà, c'était vraiment une très belle musique qui est maintenant très culte. C'est le plus grand succès de Jacques Demy au cinéma, Podane, avec un peu plus de 2 millions d'entrées. Donc plus que Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, etc. Et on parlait de Disney à de nombreuses reprises. Dans les années 90 et 2000, les studios Disney ont contacté les proches de Jacques Demy, qui était mort en 1990, et pour lui proposer de travailler sur une nouvelle adaptation du conte, et donc par exemple d'adapter le film en film d'animation. Sauf que finalement, cette idée n'est restée qu'au stade de projet, à cause notamment du malaise provoqué par les thèmes de l'œuvre, comme l'inceste ou l'animalité. En Europe, on est habitué à ce genre de contes folkloriques un peu dérangeants, autant ils se sont dit que pour un public américain très puritain, etc., ça ne passerait pas du tout. Et du coup, voilà, finalement, ce projet n'a pas abouti.
Et en même temps, quand on voit que Harry Potter est décrié aux États-Unis par certains et banni des librairies, on peut comprendre que Podane a posé problème.
Ouais, surtout par Disney. Disney, ils essaient quand même de faire des thèmes vraiment très, très, très grand public. Donc,
ouais, c'est sûr.
ça pose problème. Même s'il y a une question d'animalité aussi chez les Disney, par exemple, avec La Belle et la Bête, etc. Mais bon, voilà, c'est pas au niveau de Peau d'Âne. Et d'ailleurs, ouais, pour conclure, on disait aussi que les effets spéciaux de Peau d'Âne ont bien vieilli. Et je trouve qu'effectivement, ce serait intéressant dans plusieurs années de comparer le Peau d'Âne de Jacques Demy au, par exemple, au remake live des Disney qu'ils font, qui sont tout en fond vert et compagnie, et qui peut-être vieilliront plus finalement que Peau d'Âne, parce qu'il y a plus d'effets spéciaux, de trucage, de fond vert et de faux décors. Enfin voilà, du coup, est-ce que vous avez préféré le conte ou le film, Pascal?
C'est une question un peu difficile. Enfin, le conte est tellement court, hein, comme le disait Manon, que voilà, je vais dire que j'ai préféré le film, parce que pour moi, c'est un film culte que j'ai vu avec différents niveaux de lecture, parce que je l'ai vu quand j'étais plus petite, je l'ai revu en étant adulte, donc j'ai toujours autant aimé. Donc moi, je dirais le film. Et toi, Victoire?
Non, moi, pareil, il n'y a pas de surprise. J'ai vraiment préféré le film. Le conte est très beau, c'est intemporel, et je pense que voilà, c'est quand même le conte, c'est aussi l'histoire de base qui perdurera dans le temps, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé l'humour que Jacques Demy a insufflé. J'adore les chansons de Michel Legrand. Donc voilà, et puis le fait de voir aussi toutes ces choses merveilleuses à l'écran, enfin les trois robes de Peau d'Âne, c'est quand même c'est magique, c'est vraiment merveilleux. Enfin, c'est ce qu'on veut voir aussi quand on voit un conte en film. Donc voilà, j'aurais tendance à dire le film, surtout qu'en plus, comme je l'ai dit, j'écoute là les chansons en boucle depuis une semaine. Je crois que Hugo va me quitter. Si je lui dis encore que mon enfant n'épouse pas ses parents, il va péter un câble. Enfin voilà. Et toi, Manon?
Moi, je vais dire que j'ai préféré le film, mais pas forcément parce que j'ai bien aimé la façon dont Jacques Demy l'a réalisé, en fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est la différence de niveau de lecture, etc. Mais après, par contre, l'histoire en tant que telle, j'ai pas forcément trop accroché.
Oui.
Comme d'habitude, je suis le mouton noir quand il s'agit de comédie musicale face à Victor et Pascal. Hein, nos auditeurs vont dire je suis la grosse rageuse, mais non, je vous assure, il y a des trucs que j'aime bien, promis.
Oui.
Mais par contre, c'est fou parce que, comme tu disais, Victoire, Peau d'Âne, c'est son plus grand succès. Mais par contre, quand il est sorti, le film, il n'a pas du tout reçu de reconnaissance de la profession, en fait. Il a juste reçu un prix, c'était meilleur film pour enfants, décerné en 71 par un cercle de scénaristes en Espagne. Même si les critiques étaient plus élogieuses, mais c'était à peu près tout, quoi. Et c'est par la suite qu'il est devenu culte. Ouais.
C'est ça, mais en fait, au début, les gens, ils ont vraiment un peu pris le film de haut en disant c'est pour les enfants. Même après, il a eu une bonne critique presse. Enfin, la presse était quand même assez élogieuse, mais c'est vrai qu'ils ont toujours ramené ça au côté film pour enfants. Et d'ailleurs, c'est très drôle, il faudrait que vous regardiez sur YouTube, il y a une vidéo de Lina qui retrouve une interview de Catherine Deneuve et Jean Marais, justement, sur le tournage de Peau d'Âne. Et le journaliste les prend un peu de haut en mode ah, Jean Marais, vous vous amusez dans ce film pour enfants et tout. Et donc Jean Marais dit ah bah c'est quand même oui, déjà c'est sympa de faire un film pour enfants parce que les contes c'est chouette. Et aussi le film aborde quand même des thèmes un peu durs, etc. Enfin, il y a quand même plusieurs grilles de lecture. Et le journaliste demande carrément à Catherine Deneuve, oui Catherine Deneuve, vous trouvez pas que vous êtes un peu superficielle à jouer ce rôle de princesse, etc.
Non mais voilà, et clairement aujourd'hui il est reconnu à sa juste valeur, donc tant mieux.
Ouais, bah tant mieux. Bah d'ailleurs il a mis du temps aussi à être restauré, hein. C'est grâce à Agnès Varda finalement que le film a pu être restauré en termes de couleurs, etc. Parce que à la base pendant 30 ans avant les années 2000-2010 il n'avait jamais été restauré, donc il était toujours il avait même jamais été édité, je crois, en vidéo en VHS. Donc c'était très compliqué de le trouver. Et finalement, c'était à l'occasion des sorties de DVD, etc., que Agnès Varda a lancé un grand projet de restauration des images, etc. Et finalement, c'est vrai que c'est à elle qu'on lui doit aussi de pouvoir voir le film aujourd'hui dans une très belle qualité. Moi, je l'ai vu sur Netflix, du coup, j'imagine que vous aussi. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir le revoir dans une aussi belle, aussi belle édition. Du coup, quelles sont vos recommandations ce mois-ci en lien avec Peau d'Âne, Jacques Demy, Charles Perrault, Catherine Deneuve ou Les Ânes? Manon?
Alors moi, c'est une recommandation aussi pour moi-même, pour le coup, parce que j'aime beaucoup Cocteau, qui a, on l'a dit, inspiré l'œuvre de Jacques Demy. Donc je serais assez curieuse de voir son adaptation de La Belle et la Bête, donc en plus un autre conte qui date de 1946. Et également, je conseillerais de lire les versions originales des contes. Vous vous rendrez compte, pour certains, je pense à Blanche-Neige ou La Belle au Bois Dormant par exemple, que le final n'est pas forcément celui qu'on croit.
Bah surtout que Charles Perrault, c'était un des plus hardcore, parce que par exemple, lui, sa version du Chaperon Rouge, c'est la version où à la fin, la mère grand et Chaperon se font dévorer par le loup.
Se font manger, ouais.
Et c'est, en fait, c'est que dans les versions, par exemple, de Grimm, que finalement, le chasseur les sauve et les sort du ventre du loup, quoi.
Enfin, Anderson, il est aussi hardcore. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est
la
ce que j'allais
sirène,
dire.
La version originale, accrochez-vous. Hein,
on se souvient tous de la petite fille aux allumettes.
Ah oui,
pleurer.
J'ai tellement pleuré, je le relis aujourd'hui, je pleure. Enfin, c'est atroce.
Voilà.
Mais il y a eu aussi un court-métrage d'animation par Disney. C'est la chialance, mais un truc de dingue. T'as juste envie de mourir à la fin.
C'est horrible. Horrible.
C'est ça. Donc, en fait, non, ils ne vécurent pas forcément heureux. Ils n'eurent pas vraiment d'enfants.
En fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est aussi Disney qui a forgé aujourd'hui notre culture populaire des contes de fées. Enfin, maintenant, on a tous un peu Disneyifié notre culture. Et c'est vrai que quand on se rend compte des vraies histoires, on
bat le revirement de narratif, enfin, de narration totale.
C'est ça. Et toi, Pascal, c'est quoi ta reco ?
Bah moi, j'en ai plusieurs. alors, c'est un livre qui s'appelle « Psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettelheim. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, c'est chez Pocket.
Voilà.
Au demeurant.
Et en fait, c'est un livre très intéressant, justement, qui aborde plein des sujets dont on a parlé, qui fait, en fait, la psychanalyse des contes de fées, qui parle de tous les sujets sous-jacents, en fait, les messages cachés dans les contes. Donc, je trouve que c'est super intéressant.
Oui, c'est assez passionnant, ça.
C'est assez passionnant. Et après, bon, voilà, j'étais obligée, en tant que fan de Jacques Demy, de conseiller, bien sûr, Les Demoiselles de Rochefort.
Surprenant.
Qui reste quand même mon film préféré de Jacques Demy. Toujours Michel Legrand à la musique. Catherine Deneuve, voilà, enfin... Tous les ingrédients sont réunis. C'est un film qui est joyeux, qui met de bonne humeur.
Coloré.
Coloré, merveilleux, voilà. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu, foncez.
Oui, je suis d'accord. Bah, je l'ai revu hier, du coup, pour me remettre un petit peu
dans l'ambiance.
Ouais, non, mais exactement. Et c'est vraiment trop chouette. Ça met vraiment de bonne humeur. Moi, ma reco ce mois-ci, effectivement, je n'allais pas passer à côté de l'occasion de recommander un Disney quand même. Alors, je recommande du coup le film d'animation La Belle au Bois Dormant de Clyde Geronimi, sorti en 1959, que j'ai revu d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Disney+. Voilà, c'était le moment plateforme. Et là, pour le coup, on est dans un conte vraiment très classique, toujours de Perrault, bien sûr avec les côtés malaisants en moins, mais on est aussi sur cette ambiance très merveilleuse avec des décors vraiment magnifiques. Là, bien sûr, c'est un film d'animation, mais tous les décors sont peints à la main. Il y a une grande amplitude des décors, une profondeur des champs. Enfin, je trouve que les décors sont vraiment magnifiques. Et puis, on a ce côté, voilà, la belle princesse éthérée qui vit dans sa cabane dans les bois. Moi, je suis assez fan. Et il y a la sorcière, bon, cette fois, qui est vraiment méchante. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais voilà, moi, c'est un conte très classique avec des très belles musiques. Ça reprend les musiques de Tchaïkovski pour le ballet La Belle au Bois Dormant. Donc du coup, il y a ce côté aussi merveilleux, entraînant. Et moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ce serait ma reco. Du coup, c'est donc la fin de cet épisode sur Podan. Merci à vous deux d'être venus participer à cet épisode.
Merci à toi.
Merci à toi, Victoire, hein, comme d'hab.
En espérant, Manon, te revoir bientôt en présentiel.
Oui, désolée pour ceux qui m'écoutent et qui pensent que la qualité est un peu moins bien. Je suis en effet toujours dans le sud-ouest, mais je rentre bientôt sur Paris pour enregistrer toujours plus d'épisodes en présentiel après nos petits brunchs.
Génial. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez retrouver Adapte-moi si tu peux sur Facebook, Twitter et Instagram. On a également lancé notre Bookstagram Orgueil et Résumé si vous voulez suivre nos lectures en dehors de celles qu'on fait pour le podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut !
Salut ! Salut !